VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique en RDC. Audience publique ce mardi au Congrès des États-Unis à Washington sur la République démocratique du Congo et plus précisément devant la Commission des droits de l'homme. Il sera question de démocratie pour les panélistes qui s'exprimeront devant les représentants du peuple américain alors que la date du 19 décembre, fin du mandat du président congolais Joseph Kabila, approche à Kinshasa et qu'aucun compromis n'a été trouvé entre toutes les composantes de la classe politique congolaise. Parmi ceux qui vont témoigner tout à l'heure au Congrès se trouve un professeur d'origine congolaise à l'Université Johns Hopkins de l'État du Maryland. On écoute Mwemba Dizolele au micro de Nicolas Pinault.
À Washington, la situation est plus nuancée que ça. Washington ne parle pas d'une même voix. Il y a le Congrès, où il y a différentes voix. Il y a l'ambassade américaine à Kinshasa, qui est plus peut-être modérée dans ses déclarations. Mais il y a aussi le département d'État et l'envoyé spécial. Donc même là, je pense qu'on est d'accord que les États-Unis encouragent le pourparler. Mais les États-Unis tiennent à ce que la Constitution soit respectée. La Constitution, le respect de la Constitution accorde au président deux mandats de 5 ans chacun. Au cas échéant, la Constitution prévoit que le transfert de pouvoir va du côté du président du Sénat, qui va gérer une transition pour 90 à 100 jours. Et dans le contexte actuel, je pense que c'est quand même difficile de croire qu'on pourrait avoir les élections dans 90 jours. La commission électorale a commencé la révision du fichier électoral, ce qui prendra du temps. Donc il y a beaucoup plus d'éléments qu'il faudra gérer, mais l'esprit de la Constitution, tel que les États-Unis l'encouragent, demande à ce que les stipulations soient respectées.
Le professeur Mwemba Dizolele de l'Université Johns Hopkins au Maryland. Burundi, le responsable de la communication présidentielle dans le pays, Willy Nyamitwe, figure publique du pouvoir, a échappé lundi soir à une tentative d'assassinat, première du genre depuis des mois, et signe que le pays reste extrêmement instable. M. Nyamitwe sortait d'une réunion à la présidence et rentrait chez lui lorsqu'il a été accueilli par un feu nourri et des explosions de grenades au moment où il s'engageait sur la petite route qui mène chez lui dans le quartier de Kajaga, dans l'ouest de la capitale Bujumbura. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP un haut cadre de la présidence sous couvert d'anonymat. Le responsable de la communication présidentielle a été légèrement blessé et reçoit des soins dans un hôpital de Bujumbura. L'un de ses gardes du corps a été tué et un autre blessé. La police assure que les assaillants non identifiés étaient embusqués dans une maison en construction. Aucun d'entre eux n'a été arrêté. Une enquête est en cours. RCA, la France a exhorté aujourd'hui les différents groupes armés dans le pays à cesser toute violence et à rejoindre le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement mis au point par les autorités centrafricaines. Un appel lancé ce mardi par le porte-parole du Quai d'Orsay, Romain Nadal. Appel qui serait lié aux récentes violences ayant fait 85 morts dans la région de Bria, dans le centre de la RCA. Ces affrontements, les 21 et 22 novembre, entre groupes armés de l'ex-rébellion Séléka, se sont soldés par 85 morts, essentiellement des Peuls. Et toujours concernant la Centrafrique, face à l'urgence humanitaire en RCA, l'ONU a exhorté les pays donateurs hier à verser près de 400 millions de dollars pour couvrir les besoins en 2017. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Virginie Bekwa, ministre centrafricaine des Affaires sociales et de la Réconciliation nationale, a fait le déplacement jusqu'à Genève. Avec Fabrizio Hochschild, le coordinateur de l'action humanitaire pour la Centrafrique, elle a plaidé pour que les pays donateurs rassemblent près de 400 millions de dollars afin de venir en aide à 1,6 million de Centrafricains l'an prochain. Lors d'une conférence de presse, M. Hochschild a insisté sur l'urgence humanitaire de la RCA, plombée par les conflits et des décennies de pauvreté chronique. Cette somme s'ajoutera aux 2,2 milliards de dollars promis par des donateurs internationaux au début du mois à Bruxelles, en soutien au programme quinquennal national de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique. Selon les données de l'ONU, la moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire et 40% des enfants de moins de 3 ans sont sous-alimentés de façon chronique. Conséquence, un enfant sur 5 risque de mourir avant son 5e anniversaire.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, Côte d'Ivoire, la cour d'assises d'Abidjan qui juge l'ex-première dame Simone Gbagbo va établir aujourd'hui un calendrier de passage de personnalités ivoiriennes. C'était depuis plusieurs semaines la pomme de discorde entre l'accusation et la défense. Nani Talani.
Le président de la cour, Boaki Kouadio, va proposer un nouveau calendrier permettant de citer des personnalités ivoiriennes. La défense exigeait la présence de Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion et président de l'Assemblée nationale, Jeannot Kouadio Aoussou, ancien premier ministre, Charles Koffi Dibi, ancien ministre et bien d'autres personnalités. Cependant, rien ne prouve qu'elles feront le déplacement. Après une suspension de 2 semaines, le procès a pu reprendre hier grâce à la médiation de Maître Abeyao, bâtonnier de l'Ordre des avocats. Madame Gbagbo est jugée depuis le 31 mai pour crime contre l'humanité. Elle a déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
Politique en Gambie, le chef de l'État gambien Yahya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans sera confronté pour la première fois à un véritable défi dans les urnes lors de l'élection présidentielle de ce jeudi, face à une opposition qui fait bloc autour de son candidat. Les trois candidats en lice, Yahya Jammeh, Adama Barrow, désigné par 7 pays d'opposition, et Mama Kandé, ancien député du parti au pouvoir qui se présente sous les couleurs d'une nouvelle formation, sont tous âgés de 51 ans. Ils achèvent ce mardi leur campagne électorale. Jeudi, environ 890 000 Gambiens sur les quelques 2 millions d'habitants du pays sont appelés à choisir leur nouveau président pour 5 ans au cours d'un scrutin à un tour. La lutte contre les djihadistes au Sahel, le djihadiste Mokhtar Belmokhtar, qui a mené plusieurs opérations sanglantes dans le Sahel, aurait été tué en Libye par une frappe aérienne française. Un responsable américain l'a confirmé hier, citant des informations parues dans le quotidien américain Wall Street Journal. Eric Manirakiza.
La frappe a eu lieu en novembre avec le soutien du renseignement américain. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a rencontré à Washington hier le chef du Pentagone, Ashton Carter. Monsieur Le Drian, qui n'a fait aucun commentaire, devait aussi rencontrer le général Michael Flynn, le futur conseiller pour la sécurité nationale du président élu Donald Trump. Selon le quotidien américain Le Wall Street Journal, la frappe illustre l'étendue de la coopération militaire et de renseignement entre les États-Unis et la France, renforcée après les attentats de Paris en novembre 2015. Surnommé Le Borgne, le djihadiste algérien a déjà été donné pour mort à plusieurs reprises, notamment en juin 2015 et en 2013. Mokhtar Belmokhtar, chef du groupe Al-Morabitoun, est l'un des djihadistes les plus recherchés de la région du Sahel, où il a mené de nombreuses attaques sanglantes. Les États-Unis avaient mis sa tête à prix pour 5 millions de dollars. La justice algérienne l'a condamné à mort à 2 reprises pour assassinat de 4 Français en Mauritanie en décembre 2007, des enlèvements de 2 Canadiens en 2008, de 3 Espagnols et 2 Italiens en 2009.
Afrique australe maintenant, nouvelle monnaie sous forme de billets d'obligation au Zimbabwe. L'initiative répond au souci de résoudre le problème de manque de liquidité. Mais cette monnaie suscite de vives préoccupations dans les milieux d'affaires comme chez les gens ordinaires. Erdi Kabeya, directeur général de la plateforme de Student Hub, une entreprise éducative basée en Afrique du Sud, pense que le changement de monnaie au Zimbabwe est une entreprise vaine.
Déjà au Zimbabwe, la monnaie est devenant de plus en plus rare. Ça pousse les gens à trouver des moyens, même criminels, de pouvoir obtenir la monnaie. Parce qu'il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire avec la nouvelle monnaie qu'ils ont introduite. Et le Zimbabwe, il n'y a déjà rien de produit localement. Tout dépend des imports qu'ils font à partir de l'étranger. Ça devient difficile. De l'époque où il y avait le dollar zimbabwéen qui a obtenu un taux d'inflation de 100 000%, un record mondial déjà, à maintenant, il n'y a rien qui a changé. L'économie est toujours au plus bas et la politique monétaire est quasiment la même. Il y aura l'inflation et ils vont retourner au dollar parce qu'il n'y a vraiment pas de vision ou de plan pour sortir le pays du chaos économique. Donc la même situation va se répéter.
Erdi Kabeya, directeur général de la plateforme de Student Hub, une entreprise basée au Cap en Afrique du Sud. Et pour terminer au Soudan, les services de sécurité soudanais ont saisi ce mardi tous les exemplaires de 4 quotidiens indépendants après la publication d'appels de l'opposition à des manifestations contre la hausse du prix des carburants. Les agents du Service national soudanais de renseignement ont confisqué dans la nuit les exemplaires des journaux Al-Tayer, Al-Jadida, Al-Ayam et Al-Youm.
Info sur VOA Afrique.